je disais que ma communication, ma présentation a comme titre Diagnostic territorial et jeu d'acteurs autour du parc national Fazal Mata Kassa. Donc, en introduction, je disais que la complexité du parc national de Fazal Mata Kassa exige une certaine rigueur dans l'analyse des faits, mais surtout qu'une recherche des causes et des effets soit engagée. Face à une situation où les échanges sont difficiles, comment se dégagent les principaux enjeux qui déterminent l'avenir du parc national de Fazal Mata Kassa, tant du point de vue spatial que de celui des enjeux d'acteurs. Ainsi, en plaçant l'information au cœur des réflexions, mais également en mobilisant les modes d'une restitution graphique adaptée, il a été possible d'appréhender, mais également de représenter le fonctionnement du parc national Fazal Mata Kassa autour d'une approche organisationnelle, temporaire et multiscalaire qui témoigne d'une gestion très ambiguë. À travers dans ma présentation, il est question de présenter l'environnement naturel du parc national Fazal Mata Kassa, de dérouler les enjeux autour de ce parc, mais également de comprendre les jeux d'acteurs expliquant la gouvernance locale. Donc, parlant de l'environnement naturel du parc national de Fazal Mata Kassa, il faut reconnaître qu'il est situé au centre du Togo. Il couvre une superficie de 192 hectares et est soumis à un climat tropical de type guinéen. La moyenne annuelle des températures est de 26 degrés Celsius, alors que les totaux pluviométriques varient entre 1300 et 1700 mètres et millimètres d'eau. Sur le plan du relief, il faut souligner que le parc national de Fazal Mata Kassa couvre une portion de la chaîne de la Takura. L'ensemble présente une succession de vallées où des crêtes culminent à environ 800 mètres. Ces crêtes présentent, n'est-ce pas, ces reliefs présentent des flancs très escarpés et très abrupts, avec des cascades, surtout dans la partie ouest. Ce parc, comme je l'ai déjà dit, est bien sûr adossé à la chaîne des monts Mata Kassa, somptueusement vêtue d'une mosaïque de formations végétales. Et comme formation végétale, nous avons les formations forestières dans la partie sud du parc, alors que dans la partie nord, dominent les savanes. Bon. Le parc comprend également de très belles galeries forestières, des savanes, mais également des plaines fertiles qui sont colonisées par de nombreuses espèces végétales réputées par leurs arômes suaves. La flore est estimée à 479 espèces, d'après bien sûr les inventaires floristiques effectués par M. Wigan en 2007. La faune aviaire est particulièrement très variée, avec 203 espèces d'oiseaux. La faune mammalienne est composée d'une trentaine d'espèces. Et toutes ces espèces, parmi plutôt toutes ces espèces, figurent certaines qui sont très emblématiques, notamment les éléphants, mais également des buffles, des gazelles, des antilopes et tant d'autres espèces qui ne sont pas citées à travers, n'est-ce pas, cette présentation. Sur le plan humain, le parc est entouré par plusieurs agglomérations, dont les plus importantes sont Sotoubois, Blita, Fazao, Tchédédé, Tassi, Boulo. Mais le village emblématique qui a même donné son nom au parc, c'est le village de Fazao, dont l'image se situe, n'est-ce pas, sur cette diapositive. Nous allons passer à la seconde partie de cette présentation, à travers les enjeux autour du parc national de Fazal Mata Kassa. Nous allons d'abord analyser les dates clés pour comprendre la situation actuelle. Donc, par le biais d'un ensemble de représentations, l'évolution du territoire protégé du parc de Fazal Mata Kassa est restituée afin d'en comprendre la construction le fonctionnement et de dégager les principaux enjeux qui déterminent son évolution. La première étape de l'analyse consiste à dérouler les moments clés de l'histoire du PAC. Il est quand même très important de rappeler que, dans un premier temps, ce n'est pas forcément la protection qui a prévalu lorsqu'en 1951, la forêt de Fassao et de Malfakassa sont classées respectivement en réserve de faune et de chasse. Puis, en 1954, lorsqu'elles fusionnent en réserve de faune et de chasse de Fassao-Malfakassa. Ce n'est que 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1969, que l'État crée le parc national Fassao-Malfakassa sans qu'aucun décret n'ait été voté, ce qui laisse présager un engagement de façade au niveau national et finalement caduque au niveau local. Le développement touristique n'est intervenu que tardivement avec la construction de l'hôtel Fassao-Malfakassa en 1980, lorsque l'État décide de réorienter le développement local. Cependant, les troubles sociopolitiques des années 1990 et les problèmes de concession technique ont conduit sa fermeture en 2002. Les périodes de troubles sociopolitiques des années 1990 contribuent bien sûr à augmenter la pression sur le parc Fassao-Malfakassa, en ce sens qu'il devient le refuge des populations expulsées des zones de plantation forestière du Sud Togo. On l'a clairement vu lors des troubles des années 1990, lorsque le sud du parc a été envahi par les populations, entraînant donc la création des villages au sein du parc. Donc, comme l'a déjà souligné M. Allé, la période, les années 1990, qui correspond de façon globalement, bien sûr, à la période de démocratisation de notre pays, a été utilisée de façon très diverse. Donc, il y a eu beaucoup de troubles. Plusieurs populations originaires du Nord ont été chassées de la partie sud du Togo, n'ayant plus de territoire, n'ayant plus, bien sûr, de terre pour pouvoir s'installer. L'État a décidé d'installer une partie de cette population dans la partie sud du parc national Fassao-Malfakassa. C'est peu de temps avant le début des troubles sociopolitiques que l'État togolais propose de concéder la gestion du parc Fassao-Malfakassa à la fondation suisse Franz Weber. L'État togolais a repris la gestion du parc en 2015 à la fin de la période de concession. Le rôle de l'État apparaît alors assez ambigu, puisqu'il accorde par le biais de son ministère des autorisations de coupe de bois à la périphérie immédiate du parc, ou encore récemment la réalisation d'une piste en plein cœur de ce dernier. Force est alors de constater que ces autorisations sont perçues comme un feu vert à l'exploitation des ressources forestières du parc. La gestion étatique du parc est peu efficace et les prédations se multiplient depuis les périphéries nationales du parc, vu que nous avons déjà reconnu qu'il y a plusieurs villages qui sont installés, n'est-ce pas, autour de ce parc. Les perspectives sont mitigées, comme on va le voir par la suite, à travers des complexes de jeux d'acteurs. Néanmoins, il est question d'un projet de classement de la réserve en réserve de biosphère qui contribuera certainement à clarifier la gestion du parc avec notamment une zonation sans ambiguïté. Nous allons maintenant voir l'organisation spatiale dont il faut nécessairement comprendre l'évolution. Il est important de préciser qu'il est possible, à partir de ces différentes dates clés que nous avons déjà évoquées, de reconstituer l'évolution du parc, les peuplements anthropiques, les activités, les déplacements ainsi que le niveau de la gouvernance. Trois périodes sont à envisager. Avant 1975, avec l'établissement du statut de parc national, entre 1975 et 1990, lorsque l'État est le principal intervenant, et au-delà, c'est-à-dire 1990, depuis la concession de la gestion à la Fondation Suisse France Weber. Donc, avant 1975, cette zone montagneuse de la Tokora, constituée de chaînons orientés sud-ouest et nord-est, qui culminent à plus de 800 mètres d'altitude, est une réserve de faune et également de chasse. Elle est très peuplée. Seuls les clans du Mopul exploitaient cette nature encore assez sauvage. Entre 1975 et 1990, les limites du parc national sont fixées. Fazao s'impose alors comme une porte d'entrée principale du parc, alors que les villages se multiplient à la périphérie. Autour des années 1990, des troubles politiques poussent les habitants à occuper le sud du parc. Les prélèvements dans le parc se multiplient face aux besoins des riverains. Depuis l'axe Lomé-Cara, une piste mène au village de Fazao, mais la réfection non achevée d'un pont limite l'accessibilité. En 1990, la jonction avec le parc ghanéen voisin est mieux appréciée dans le cadre d'une co-gestion, notamment d'un co-développement. On assiste donc à une forte croissance de la population des villages situés à la périphérie du parc. La population se multiplie tandis que des coupes sont autorisées à proximité immédiate. Donc, comme on peut donc le constater, le parc est bien sûr en proie à de multiples prédations qui pèsent sur son équilibre et le schéma synthétique le révèle très bien. La croissance des populations riveraines, les implantations pérennes au sud du parc, la multiplication des prédations, notamment le bois de chauffe, la fabrication, bien sûr, du charbon de bois, les prélèvements des cure-dents, les activités telles que l'orpaillage, le braconnage, la récolte, bien sûr, du miel, le ramassage de fruits, ainsi de suite, etc., si vous permettez. Le braconnage en provenance, bien sûr, du parc national de Fazao-Malfa-Kassa, mais également l'amélioration de la pénétration vers et surtout au-delà de Fazao et les autorisations, bien sûr, de coupe de bois en périphérie immédiate de ce parc prouve comment est géré, bien sûr, le parc Fazao-Malfa-Kassa. Dans ces conditions, seul, bien sûr, un décryptage des jeux d'acteurs peut permettre de comprendre cette situation, mais également d'identifier les synergies, les difficultés existantes et les projets de l'évolution, bien sûr, à venir. Mais avant, bien sûr, d'aller à ça, je vais un peu revenir sur l'envahissement, bien sûr, du parc Fazao-Malfa-Kassa. Nous voyons, bien sûr, à travers ces deux cartes, que la partie sud-ouest, qui est, bien sûr, située ici, est occupée par plusieurs villages. Okay? Et comme nous l'avons déjà dit, cette occupation date, bien sûr, des années 1990, quand l'État a pris sur lui l'engagement d'installer, n'est-ce pas, les populations expulsées du sud du pays dans cette partie. Le drame, c'est que à partir bien sûr de ces villages, plusieurs portions du parc sont grignotées petit à petit chaque jour. Dans la gestion du parc national Fazao-Malfa-Kassa, ça pose donc une question plus large de participation communautaire dans le cadre des aires protégées et du développement local. On se situe alors aux confins de trois types de gestion. Le premier, fondé sur une logique de conservation, révèle d'une échelle nationale, voire supranationale. On doit alors s'interroger sur le rôle joué par l'État et ses services. Le second, fondé sur une logique de développement, implique l'exploitation locale des ressources du parc. Il s'agit de comprendre comment les différents types d'acteurs locaux interagissent. Le troisième, relatif bien sûr à l'exploitation touristique du parc, suppose à la fois préservation, développement économique et présence humaine dans le parc, en relation bien sûr avec l'État. Dans tous les cas, quels que soient les modes de gestion, il convient d'y associer les populations locales et les riverains. Ainsi, dans le cadre du parc Fassao Malfa-Kassa, 11 catégories d'acteurs, QCD le compose en 27 sous-catégories, sont identifiées. Il s'agit bien sûr des représentants du parc national de Fassao Malfa-Kassa, plutôt, excusez-moi, des responsables du parc national forestier du Ghana, qui est très contigu bien sûr à celui de Fassao Malfa-Kassa. L'État et ses différents services, notamment le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, les directions régionales de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministère du Tourisme, la préfecture de Sotoubois, de Tchaoudjo, de Blita, de Bassa, mais également les tribunaux de Sotoubois, qui interviennent également dans la gestion de ce parc à travers, bien sûr, le règlement des conflits. Mais nous avons également des villages et leurs chefs, les habitants dans le sud du parc. Il faut quand même remarquer que depuis que l'État a décidé d'installer la population dans cette partie, 12 villages ont été bien sûr constitués, avec chacun bien sûr un chef. Les villageois et leurs chefs, les habitants des 50 villages périphériques, qui également jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que ces populations ont des impacts négatifs sur le parc à travers quoi? À travers les différents prélèvements. Le village de Fazao, leur relief, leur chef, les agents forestiers, les villageois, les responsables religieux. Nous avons également les associations des aires protégées du Togo, qui ont également un regard sur la gestion du parc Fassao Malfa Kassa. Le comité de développement des villages, qui sont bien sûr entourés, qui sont situés autour de ce parc. Le club des amis de la Fondation France Weber. La Fondation France Weber, son fondateur, la direction du parc, les 52 agents répartis entre les 4 brigades et les 5 sous-brigades. Le groupement des villageois, le groupement des femmes, les jardins et maraîchers de Malfa Kassa et également le groupement des apiculteurs. Il faut quand même reconnaître que depuis 1995, la Fondation France Weber n'intervient plus dans la gestion du parc. Pourquoi? Parce que la période de concession est dépassée. Donc, c'est l'État qui a pris en charge désormais la gestion de ce parc. Mais il faut quand même remarquer que la Fondation France Weber a été, dans un passé récent, un acteur principal de la gestion, n'est-ce pas, de ce parc. Donc, la gestion du parc national de Fassao Malfa Kassa est très complexe. Au-delà, bien sûr, des enjeux qui impliquent des jeux d'acteurs très complexes, elle révèle, entre autres, la nécessité d'une implication claire et lisible de l'État et des services décentralisés. Il faut reconnaître que présentement, le parc est directement géré par l'État, mais avec plusieurs difficultés. La première et principale difficulté, c'est le personnel des agents forestiers qui n'est pas suffisant pour pouvoir veiller, n'est-ce pas, à la protection du parc. Nous avons déjà reconnu que le village est entouré par plusieurs villages, par une cinquantaine de villages, et vous voyez que dans ces conditions, les quelques agents dont dispose l'État ne peuvent pas jouer efficacement leur rôle. Donc, ce qui fait que de plus en plus, le parc est grignoté, mais quand même, il faut reconnaître que c'est l'un des parcs les mieux conservés du Togo. Voici de façon globale les points saillants de ma présentation. Merci pour votre attention et vos questions seront les bienvenues. Merci beaucoup.